Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc commencer cette séance destinée à présenter le dernier venu des livres de Marc Sapolia que tout le monde connaît. J'épargnerai la présentation habituelle. S'il y en a qui, par hasard, ne le connaissaient pas, eh bien, ils le découvriront en lisant cet ouvrage dans lequel il se livre et il se décrit lui-même d'une certaine manière. Voilà. Cet ouvrage est la suite d'un premier qui était paru en 2008 qui s'appelait « Ordre et désordre ». Et comme l'ouvrage a eu du succès, mais Marc Sapolia a continué à écrire ses chroniques, puisqu'il s'agit de petites chroniques, et cela a abouti à la publication par les éditions du Festin de cet ouvrage. Voilà. Alors je vous disais que je présentais pas Marc Sapolia. Un mot quand même pour dire que tout au long de sa carrière d'historien de l'art, de l'architecture spécialement, et d'enseignant, Marc a été toujours très spécialement préoccupé par, les théories de l'architecture, les réflexions, plus que l'étude de tel ou tel monument, de tel ou tel architecte, par la réflexion sur l'architecture. Je vais lui rappeler un souvenir. La première fois que nous nous sommes vus, il est venu me voir. Il était jeune enseignant, et moi j'étais presque jeune enseignant aussi. C'était pour me parler de ses recherches sur le Doubs. C'est dire que le Doubs, j'espère que ça évoque pour vous quelque chose, c'est le type même de ces architectes compliqués qui écrivent en même temps et qui réfléchissent sur leur art. Puis par la suite, il s'est intéressé donc à toutes les théories de l'architecture, en particulier telles qu'elles étaient, se sont exprimées dans les grandes revues d'architecture dont il est devenu l'un des spécialistes. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter Marc Sapolia. Et par conséquent, il est fidèle à lui-même à travers ses textes. Je dis des textes parce que c'est pas un essai global. C'est une série de petites chroniques de 2-3 pages qui ont d'ailleurs été la plupart publiées dans le Festin et donc qui sont réunies ici. Donc il reste fidèle à cette démarche, une démarche assez étrange, assez inhabituelle, puisque au lieu de regarder les grands édifices et de nous permettre d'en apprécier toute la noblesse, toute l'originalité, tout ce qui justifie leur célébrité, bien il fait tout le contraire. Il se balade un peu au hasard dans la ville, il s'y perd, il regarde et il est attentif à ce que les autres ne voient pas ou ne cherchent pas à regarder. Voilà. Et il a décidé de placer cet ouvrage sous le signe, c'est pas mal, de Montaigne. Donc c'est toujours bien de se référer à Montaigne, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que c'est... parce que c'est toujours extraordinaire. Et voilà un peu l'introduction que je vous conseille de lire avec attention parce qu'elle est brillantissime, s'appelle « Le palais d'Apollidon et la porte de la cuisine ». Un peu étrange. Alors le palais d'Apollidon, j'avoue que malgré mon immense culture, je ne savais pas ce que c'était. Et Marc a la bienveillance de mettre une note et il nous explique que c'est un palais féerique d'une héroïne de cette épopée qui s'appelle Amadis des Gaules, dont vous savez que le Don Quichotte est en quelque sorte la parodie. Voilà. Mais cet Amadis des Gaules, il était tellement célèbre et que le palais d'Apollidon était très connu en son temps, contrairement à nous qui sommes devenus très ignorants, et Montaigne en parle. Et c'est cette phrase de Montaigne que je vais me permettre de vous lire avant de passer la parole immédiatement après à Marc, qui est un peu le thème, le fil conducteur de sa démarche. Fil conducteur, c'est pas très bien dit non plus, parce qu'un fil, c'est linéaire, c'est suivi, alors que lui, il va, comme dit Montaigne encore, à saut et à gambade, c'est-à-dire de droite à gauche, sans ordre apparent. Voilà ce que dit Montaigne. « Je ne sais s'il advient aux autres comme à moi, mais je ne me puis garder, quand jouent nos architectes, s'enfler de ces gros mots de pilastres, architraves, corniches, d'ouvrages corinthiens et doriques et semblables de leur jargon, que mon imagination ne se saisisse incontinent du palais d'Apollidon. Et, par effet, je trouve que ce sont les chétives pièces de la porte de ma cuisine. » Voilà ce que dit Montaigne. Je peux relire la phrase peut-être si vous voulez, parce qu'elle est pour bien qu'elle vous entre dans la tête. Puis après, Marc nous expliquera en quoi Montaigne, son palais d'Apollidon et sa cuisine, et la cuisine de Montaigne lui a servi un peu a servi à sa démarche. Je redis, c'est trop joli. Je ne sais s'il en advient aux autres comme à moi. Mais je ne me puis garder, quand j'ouvre nos architectes s'enfler de ces gros mots, de pilastres, architraves, corniches, d'ouvrages corinthiens et doriques, et semblables de leur jargon, que mon imagination ne se saisisse incontinent du palais d'Apollidon. Et, par effet, je trouve que ce sont les chétives pièces de la porte de ma cuisine. À vous, Marc, pourquoi cette citation et en quoi elle caractérise votre recherche ?
Bon, merci Robert de cette introduction. Je dirais simplement que je suis tombé sur cette phrase de Montaigne un peu par hasard dans un chapitre qui s'intitule, je crois, même si c'est pas vraiment le titre exact, qui s'intitule « De la vanité du langage ». Voilà. Cette phrase est extrêmement intéressante parce que c'est une des rares fois où Montaigne parle de l'architecture. Hein. Si vous lisez le voyage en Italie, on pourrait s'attendre effectivement à des descriptions et des comparaisons savantes sur l'architecture. Or, en réalité, on ne trouve que des banalités. Et alors, ça peut se comprendre par le fait que, et cette phrase le traduit, Montaigne est un petit peu allergique aux mots qui désignent l'architecture. Non seulement il est allergique, mais en même temps, il les présente comme des mots qui vont gonfler l'objet, lui donner une identité qu'il n'a pas. Voilà. La porte de la cuisine, par exemple.
C'est une porte de cuisine.
Exactement, décrite avec les mots de pilastre corinthien ou de chapitre dorique, devient le palais d'Apollidon. Et alors, moi, je prends cette phrase un petit peu à la lettre, si vous voulez, et quasiment en prenant le contre-pied de Montaigne. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est aussi la suite que je vous lirai après. Ce que je cherche, moi, quand j'ai fait ce bouquin, comme quand j'ai écrit le premier, c'est justement ce qu'il y a du palais d'Apollidon dans les portes de cuisine. C'est-à-dire ce qu'il y a de monumental, ce qu'il y a d'intéressant du point de vue de l'architecture avec un grand A, du point de vue de la culture architecturale, du point de vue de la relation avec le modèle. Ce qu'il y a d'intéressant, donc, de toute cette référence-là dans des objets qui, jusque-là, ne sont pas véritablement désignés comme étant des objets de valeur, de qualité ou bien de référence. Les détails que je choisis dans ce bouquin sont des détails qui, effectivement, ne sont pas véritablement mis en scène, mis en valeur, mais qui existent. Ils existent dans la ville, ils existent parfois près des grands monuments, parfois aussi dans les grands circuits touristiques, mais ils ne sont pas regardés. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Pour l'instant, je reste un peu dans le vague et je n'ai pas malheureusement la possibilité de vous projeter des images comme je l'avais eu lors de la première conférence, où j'avais la possibilité tout de suite de vous montrer le concret de mon discours. Donc je resterai peut-être un peu théorique. Hein. Je ne peux pas mimer l'architecture non plus, c'est impossible. Mais je vais quand même essayer d'étayer cela. Pour être quand même très clair, la phrase de Montaigne que je vais reprendre, il faut la compléter. Il faut la compléter par une suite qui est la suite immédiate de cette phrase. C'est-à-dire qu'il parle d'une part de l'architecture et dans les mots qui suivent, voilà ce qu'il écrit. Et ça permet finalement d'être un peu plus clair. Voilà, donc après avoir dit que parler de dorique corinthien, c'était en fait parler de la porte de la cuisine et la transformer en palais d'Apollidon, ce qu'il critique, il ajoute. Oyez dire métonymie, métaphore, hein, allégorie et autres tels noms de la grammaire, semble-t-il pas qu'on signifie quelques formes de langage rares et palgrins ? Et il répond, ce sont des titres en fait qui touchent le babil de votre chambrière. C'est-à-dire qu'il prend la même formule, il l'applique au langage, il applique à la manière de parler. Il désigne ces mots savants comme étant une manière de faire valoir un discours qui n'en vaut pas la peine. Et moi, j'ai vu dans tout cela une relation directe avec l'architecture. Ce que je vais vous dire, c'est un peu une banalité, parce que déjà depuis fort longtemps, on l'avait dit. Mais je crois que là, il l'avoue sans le dire, l'architecture est en fait structurée comme un langage. Voilà, en deux mots, c'est ça. Hein, l'architecture est une langue, elle a son discours, elle a sa grammaire, elle a ses figures de style, elle a ses comparaisons, elle a ses métaphores, elle a tout ce qui caractérise un langage. Hein, et ce langage qui est celui de l'architecture, eh bien, c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire que je cherche, en fait, en attrapant des détails d'architecture, en attrapant des motifs particuliers, de retrouver à l'intérieur de ces motifs ce qui peuvent les rattacher à un langage architectural. Un langage architectural qui est, effectivement, très certainement, le discours canonique à partir duquel d'autres architectes moins connus, parfois des entrepreneurs, parfois des artisans, ont essayé de correspondre ou au contraire ont essayé de prendre des distances, du recul, ont mal interprété un modèle, se sont un petit peu fourvoyés dans la manière dont ils ont entrepris de copier une forme. En quelque sorte, et je pense qu'on peut le dire comme ça, les perturbations du langage qu'ils font subir aux objets qu'ils reprennent, qu'ils interprètent, renvoie bien sûr à la qualité de la grande langue, montre aussi sa souplesse, montre ses rigueurs et ses limites. Donc finalement, dans ce que je fais là, je fais un travail qui est sans cesse référencé à la culture. Voilà. Je ne perds jamais de vue qu'il y a effectivement dans ce que je cherche, dans ce que je trouve, quelque chose qui m'évoque une autre chose. Voilà.
En somme, vous cherchez à travers l'argot les références au langage académique.
Ça pourrait être un peu ça, mais ce n'est pas vraiment de l'argot. C'est-à-dire que l'argot est une langue en soi.
Oui. Hein.
Or, ce que je...
Mais vous pistez alors le lapsus, le solécis...
Ah, mais alors, tiens, le lapsus, c'est un terme intéressant, parce que vous avez tout à fait raison de dire ça, Robert, puisque...
C'est de la psychanalyse.
C'est peut-être de la psychanalyse, mais il est vrai que dans ce type de recherche, ce qui est intéressant, c'est justement tout ce qui se rapporte presque, comme on dirait dans un langage psychanalytique, ce qui se rapporte un petit peu à l'oubli, au refoulé, au non-dit, voilà.
Et qui s'exprime malgré le...
Et qui s'exprime quand même, justement, ouais, voilà. Bon, je peux pas, je vous dis, il me manque des images, hein, mais vous les trouverez dans le bouquin si vous l'achetez. Ce sont des... Bon, voilà, je passe et repasse dans des rues. Hein, tout architecte, tout historien de l'architecture le fait. Hein, Robert, comme moi, on a le nez en l'air tout le temps. Hein, et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ses balades à pied plutôt qu'en voiture ou à bicyclette. Hein. Et puis dans cette pratique, tout d'un coup, je vois un chapiteau. Voilà, un chapiteau que j'ai vu 100 fois, qui soudain m'évoque quelque chose. Et à force de triturer l'image, l'évocation qui me vient, alors est-ce que c'est moi qui la force, est-ce que c'est moi qui la porte, j'en sais rien, me renvoie tout de suite à un chapiteau de Michel-Ange sur la place du Capitole, dont il me semble que ce chapiteau-là est un modèle, est une interprétation maladroite, grossière, etc. Mais elle le reprend vaguement. Voilà. Alors, bien entendu, une fois que j'ai fait cette identification, reste un travail qui est celui du travail en archive.
Alors, je voulais vous en parler. Il y a d'abord, évidemment, je dirais la promenade, la déambulation dans la ville, à pied, le nez en l'air, avec les lunettes, et le repérage. Mais après, vous allez quand même au-delà. Votre interprétation, elle s'appuie à la fois sur des connaissances. Alors, des connaissances qui sont issues peut-être de recherches spécifiques, vous allez dans les archives, et puis plus généralement, évidemment, qui sont celles de votre culture personnelle, de votre culture d'historien de l'art.
Alors là, vous avez raison, une fois de plus, c'est vrai, Robert. Donc nous avons, vous comme moi, une formation d'enseignant. On a enseigné très longtemps à l'université, tous les deux, et on enseignait à une époque où on faisait des cours qui commençaient au début de la Renaissance, qui s'achevait à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire sans spécialisation particulière. Ce qui nous a permis, devant nos étudiants, d'abord de nous former à nous, et ensuite de former des étudiants à une forme de culture très vaste, qui peut-être leur manque maintenant, mais enfin, je ne vais pas pleurer sur l'enseignement actuel. Donc on a ça. On a ça en plus aussi, qu'on a été formé à une époque où les images ne circulaient pas aussi facilement. Et quand on avait effectivement une image qui passait dans un cours ou que nous diffusions nous-mêmes, on en était imprégné complètement. Hein. C'est-à-dire qu'on avait une culture d'image très, très forte. Bon. C'est ça aussi qui fonctionne d'abord. Ensuite, il y a la recherche, comme Robert l'a dit, en archive. Et il est évident que quand une maison excite ma curiosité, je peux pas en rester là. Hein. Je vais voir aux archives municipales ou départementales s'il y a un permis de construire, s'il y a un architecte, s'il y a une lettre, s'il y a quelque chose qui va peut-être confirmer mon idée. Et en général, là, je tombe sur des choses qui sont de véritables trésors. C'est-à-dire que le motif s'explique. Quand on trouve, comme ce que je fais là, bon, je parlais de ce chapiteau que je peux comparer, voilà, à un chapiteau de Michel-Ange. Et quand je trouve le nom de l'architecte, quand je sais qu'il est formé à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, dans les années 1860, et quand je sais que le grand manuel sur lequel travaillaient ces architectes de l'époque était le précis d'architecture de Charles d'Avillers, que toutes les écoles d'architecture avaient, c'est un précis d'architecture qui doit dater du début du XVIIe siècle, et dans lequel il reproduit effectivement ce chapiteau de Michel-Ange de la place du Capitole, et il dit qu'il n'est absolument pas habituel ce chapiteau, et que c'est parce qu'il est incongru et qu'il le publie, il est évident qu'on est un petit peu là, peut-être pas dans la source, hein, on n'a pas trouvé le modèle, mais peut-être, pourquoi pas. Voilà.
En tout cas, l'étrange trouve déjà une explication qui est de l'ordre de la culture historique.
Oui, voilà. C'est ça, hein, voilà. Je vous en prie, allez-y.
Puisqu'on parle d'étrangeté de culture historique, je choisis ce texte spécialement parce qu'on n'est pas obligé d'avoir l'image sous les yeux, encore que, mais au cours de vos promenades éclairées par votre culture, je crois qu'un jour vous avez rencontré Mansart. Racontez-moi cette aventure, s'il vous plaît.
C'est une aventure curieuse. Dans une rue qui s'appelle la rue... Je ne sais plus comment, d'ailleurs. Guillaume Leblanc, voilà. Dans laquelle je suis passé 100 fois. J'ai vu apparaître dans le fond d'un jardin, éclairé par, un très beau soleil, un magnifique fronton.
Un jardin un peu pourri, hein.
Oui, très étroit.
Encore que, mais autour de, au cours de vos promenades éclairées par votre culture, je crois qu'un jour vous avez rencontré Mansart. Racontez-moi cette aventure,
C'est une aventure curieuse. Dans une rue qui s'appelle la rue... Je ne sais plus comment, d'ailleurs. Guillaume Leblanc, voilà. Dans laquelle je suis passé 100 fois, j'ai vu apparaître dans le fond d'un jardin, éclairé par, un très beau soleil, un magnifique fronton.
Un jardin un peu pourri, hein.
Oui, très étroit.
Pardonnez-moi du terme, je ne sais pas, il est très inapproprié.
Un très très beau fronton triangulaire qui apparaît, et sur ce fronton est sculpté une tête magnifique. Peut-être Apollon, avec des rayons tout autour. Et ça surgit comme ça au soleil d'été dans une pierre blonde. C'est absolument magnifique. Et ce fronton est porté par quatre pilastres ioniques splendides. Cinq, voilà.
C'est impair. Hein, oui.
Et alors, bien sûr, ça ne peut pas... Ça ne peut pas passer comme ça. Je veux dire, quand on voit une chose comme ça, on se dit mais comment se fait-il que ce bâtiment aussi classique, aussi beau, aussi parfait, que l'on voit comme ça au fond du jardin, n'a jamais été publié dans une revue d'architecture, ou en tout cas au moins dans un livre sur l'histoire de l'architecture de Bordeaux. Et puis je fais une photo, j'agrandis la photo et je vois effectivement sur le fronton une signature Mansart, ce qui conforte quand même ma curiosité. Bon,
un scoop,
mais il y avait déjà des éléments qui faisaient que ce fronton, on pouvait douter de son authenticité. D'abord Mansart, ensuite une antenne de télévision dans le fond, la propreté de la pierre. Un pilastre au milieu du fronton, c'est curieux. En général, on met deux pilastres à droite et à gauche, on laisse la partie centrale ouverte. Là, il y a un pilastre comme ça au beau milieu, chose qui est absolument impossible. Et en agrandissant la photo, effectivement, non seulement il y avait le nom de Mansart, mais il y avait en plus une date. La date, c'était 1988. Alors, là, ça devient un objet intéressant, vous voyez, à ce moment-là. Très intéressant, parce que toutes les questions se posent, effectivement. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qui c'est ce Mansart? Pourquoi cette date? Voilà. Et en vérité, donc, j'ai donc sonné à la maison, et Monsieur Mansart m'a ouvert. Il s'appelle Maurice, et Maurice Mansart est un très grand décorateur, compagnon du Tour de France. Il a réalisé un nombre fantastique de trompe-l'œil dans des magasins, dans des immeubles. C'est un maître du faux marbre, du stuc lustré. Enfin, vraiment, c'est un type extraordinaire. J'ai passé un moment fantastique avec lui. Il a organisé sa maison d'une manière fabuleuse. Sous le fronton, il y a la salle à manger, qui est la reproduction, mais en petit, de la grande salle à manger de Chenonceau. Vous imaginez, avec la grande cheminée, et les salamandres et tout ça. Hein, voilà, c'est ça, vous voyez. C'est cette série de découvertes et de rencontres, finalement, qui me donne envie de continuer à écrire et à essayer de résoudre ces énigmes. Parce que finalement, on est toujours dans des énigmes. Là, hein. D'abord, la première énigme, c'est de savoir si c'est pas moi qui porte le désir d'interpréter en moi. Et ça peut être là aussi, c'est très très complexe l'affaire. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je me trompe finalement? Est-ce que je projette quelque chose plutôt de moi que de la culture objective dans l'affaire? Bon. Et la deuxième, c'est d'arriver à trouver un petit peu le sens de ces détails, ou bien de savoir qui l'a fait, ou de savoir où ça me mène. Ça peut mener très loin, vous voyez. Une maison qui m'a toujours intrigué, qui est dans une rue dont je ne peux pas vous dire le nom parce que je ne l'ai pas en tête, me conduit, après avoir trouvé la date de construction et le nom de l'architecte, me conduit à une adresse, parce qu'il y a des adresses dans les permis de construire, à une adresse où je vais, effectivement, et où je découvre dans cette adresse, au-dessus de la porte, les signes habituel du domicile de l'architecte, c'est-à-dire...
Alors, là, je vous coupe, pardon. Oui. Précisément, pardonnez-moi,
je
m'excuse auprès du public aussi, parce que c'est pas bien de couper. Mais vous ouvrez la voie, si vous voulez, à l'un des thèmes qui est important et un peu particulier, parce qu'il est traité avec insistance dans votre travail. C'est celui de la maison d'architecte. Voilà. Où habitent les architectes? Comment ils habitent? Est-ce que la maison reflète leur culture, leur ambition? À travers... C'est comme un peu à travers le vêtement, on peut essayer d'imaginer la personnalité ou le caractère de celui qui porte le vêtement. Et je pense que vous avez ce goût de collectionner les maisons d'architectes et à travers cette collection, essayer de découvrir leur culture, leur originalité, leurs ambitions.
Alors, donc... C'est alors, tout à fait ça, dire... Robert. Non, mais je vais venir à cette thématique. Il y a pas de problème là. Je termine mon histoire quand même.
Ah bon, d'accord.
Donc je vois cette maison avec ces signes appartenant donc à l'architecte, qui est un dessin. Lorsqu'on le date, évidemment, c'est 1930. Et je me dis quand même, la première maison que j'ai vue, qui date des années 60, la résidence de l'architecte, 1930, c'est certainement pas le même qu'il a fait. Il doit être mort depuis. Mais il y a quand même son nom, donc je sonne là aussi. Et effectivement, quelqu'un m'ouvre, qui a le même nom que l'architecte, qui est même son fils d'ailleurs, qui est architecte lui-même, qui habite dans la maison de son père, qui est effectivement mort depuis longtemps, mais qui a été incapable de me dire un seul mot sur la carrière de son père. À peine sait-il d'ailleurs sa date de naissance. Et donc, je n'ai pas pu aller plus loin. Hein. Certainement un conflit familial, je ne sais pas, une concurrence entre les deux. Bon, enfin, alors, je reviens à la question que vous m'avez posée. Oh oui. Oui, effectivement, les maisons d'architectes sont très intéressantes. Les maisons... Enfin, les résidences et les ateliers. En général, c'est le même endroit, hein, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et les architectes bordelais prennent l'habitude, ce qui est souvent d'ailleurs, ce qui n'est pas très fréquent dans les autres villes, de signaler d'une part leur maison par un traitement architectural particulier qui est à la fois une image de leur savoir-faire et du style dans lequel ils travaillent, et aussi... très souvent de signaler par une iconographie particulière leur métier. Quand je dis une iconographie particulière, je veux dire qu'il y a la colonne, le chapiteau, etc. Voilà. Bon. Donc, aidé des annuaires professionnels, je me suis amusé à rechercher les maisons d'architectes pour savoir si elles portaient ces signes particuliers et s'il y avait surtout dans ces signes, s'il y avait des différences, s'il y avait quelque chose qui montrait des parties esthétiques différentes. Et il y en a. C'est intéressant, par exemple, de comparer la maison d'un architecte qui a passé toute sa vie à faire du néo-gothique, et je pense ici à Valdon, hein, l'architecte de l'hôpital psychiatrique Charles Perrins, hein, vous le connaissez, ça ressemble à un petit village médiéval avec sa tour, ses cuisines qui reprennent des cuisines de Fontevraud, voilà, et qui effectivement se construit une maison et un atelier totalement néo-gothique avec, pour désigner à l'entrée, sur la porte d'entrée, pour désigner son métier d'architecte, il invente quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire de l'architecture, il invente une allégorie de l'architecture, c'est-à-dire il invente un personnage féminin drapé, alors non pas d'une tunique, Robert, mais
une tunique,
voilà, drapé d'une tunique et portant d'une main une maquette d'église et tenant de l'autre main le compas traditionnel. Voilà. Et en dessous, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible, puisque c'est une invention, hein, l'allégorie de l'architecture n'existe pas dans l'histoire des allégories. Il fait inscrire l'architecture. Voilà. Et à côté de ça...
Il n'est pas moderne du tout, alors, cet architecte. C'est un architecte rétrograde, retardataire ou quoi ?
C'est un architecte néo-gothique, c'est-à-dire il a sa modernité.
Oui, je veux bien.
Oui. Là, vous me piégez. Qu'est-ce que vous voulez dire, Robert ?
Simplement, je veux que vous éclairiez le public en expliquant d'un mot que faire du néo-gothique à cette époque-là, ce n'est précisément pas être retardataire, comme je semblais
oui,
le
mais
dire.
Je pense que ce public est assez...
Je ne sais pas.
Je suis sûr. Pour faire lui-même ça.
Oui, oui. Et en même temps... Bon.
Voilà.
Oui.
Alors, disons, ça va sortir du cadre de l'ouvrage. Mais
ah
oui,
non,
effectivement.
Non, alors,
le néo-gothique, pour ceux qui ne seraient pas au courant, est un choix esthétique qui est né vers 1850 et qui revendique la modernité de cette recherche dans le passé médiéval en prenant. C'est le cas du Vieux-le-Duc, du néo-gothique, d'une part, effectivement, tout le côté pittoresque, mais aussi, surtout, tout le côté constructif. C'est-à-dire que ce sont des architectes qui découvrent que, dans l'architecture médiévale, tout élément a une fonction. Hein, il n'y a rien de gratuit. Et ça, c'est extrêmement moderne au XIXe siècle. Et ce sont les néo-gothiques qui ont été parmi les premiers à introduire l'usage du fer, de la fonte, de l'acier dans l'architecture. Bon.
Et on le voit chez Valton.
Exactement. Voilà. C'est ça que vous vouliez... Parce que ça, c'est une façade de la maison. Mais de l'autre côté de la rue, il y a effectivement son atelier qui, lui, affiche des caractéristiques modernes, beaucoup plus audacieuses, innovatrice et beaucoup moins fantaisiste que la façade qu'il a construite. Et alors en même temps, un autre architecte bordelais qui s'appelle Mainviel, lui qui est un grand classique, qui est formé à l'école des Beaux-Arts, Valton aussi, mais il a pris ses distances, qui a passé sa vie, en tout cas au moins sa vie d'étudiant et même certainement sa vie d'architecte, a dessiné des chapiteaux doriques, ioniques, corinthiens. On n'en plus finir. C'était comme ça que se formaient les architectes au XIXe siècle. Ils se formaient à l'étude des chapiteaux antiques. Hein. On ne leur demandait pas plus. Hein. Valton lui signale son atelier avec un magnifique bas-relief, avec un magnifique bas-relief qui reproduit un très bel ordre ionique, un compas, une équerre, etc. Et tombant négligemment du chapiteau ionique, une feuille de dessin sur laquelle est, semble-t-il, dessiné le plan d'une basilique antique. Voilà. Bon, donc si vous voulez, ça renseigne effectivement sur leurs options stylistiques. C'est une image de leur savoir.
Et pardonnez-moi, ils sont absolument contemporains.
Totalement. Ça, voilà. Les deux maisons ont été construites en même temps. Ouais. Voilà. Donc, et en même temps, c'est un risque qu'ils prennent, parce que dans cette inscription si forte d'un style dans un édifice où ils habitent, ils prennent le risque de figer un peu leur image. Hein, voilà. Ah, ouais. Mais j'ai trouvé intéressant de faire cette petite recherche-là. Voilà.
Bien, alors on peut continuer nos balades, par exemple, si vous voulez.
Mais oui, on est
vous avez tout un chapitre un peu développé qui nous promène précisément dans ces lieux un peu improbables, en dehors du monumental, en dehors du convenu. Au lieu de nous promener sur les quais de Bordeaux et place de la Bourse ou place de la Comédie, vous nous amenez, me semble-t-il, à Bacalan. C'est un peu inattendu et je pense que c'est pour les Bordelais l'occasion de faire des découvertes parce que c'est, me semble-t-il, en dehors des circuits, non seulement touristiques, mais des circuits architecturaux habituelle. Alors, qu'est-ce que vous découvrez au fin fond derrière la base sous-marine ?
Si vous voulez, je serai bref parce que ce n'est pas vraiment ce qui constitue ma démarche fondamentale. Oh. Là, c'est une balade dans Bacalan.
J'ai rien compris.
Oui, Non, non, mais non, je plaisante. Simplement, vous savez que Bacalan est à l'heure actuelle l'objet de transformations qui vont totalement transformer l'image de cette banlieue de Bordeaux. Et avant que tout cela, parce que maintenant c'est un chantier gigantesque, intéressant d'ailleurs, hein, avant que cela s'opère, j'ai voulu essayer de montrer ce qu'il y avait encore comme reste. D'une part de cette architecture industrielle de Bacalan, portuaire aussi, et d'autre part de quelques bâtiments qui ont été réalisés par de grands architectes, qui d'ailleurs seront conservés, et que je voulais replacer dans leur cadre qui était celui du Bacalan du XXe siècle. Voilà, enfin, du Bacalan ouvrier. En particulier, la place, comment s'appelle-t-elle ? La place Buscaillier.
Buscaillier, oui.
Voilà, de Ferré. Alors, qu'est-ce que je trouve à Bacalan ? Je trouve effectivement souvent des ruines, quoi. Mais les ruines sont intéressantes aussi. J'ai trouvé une discothèque.
Ah, une discothèque. Du Macumba.
Alors, mais c'est pas Bacalan, le Macumba. Mais le Macumba, c'est très intéressant.
C'était pour vous sortir de Bacalan.
Le Macumba, si vous voulez, c'est l'exemple de choses qui m'intéressent. Parce que tout le monde trouve ça laid. Et puis, y a une sorte de mépris là-dessus. Or, quand on cherche bien, qu'on trouve les archives, que l'on voit. Le succès qu'a eu ce type de boîte de nuit, on change un peu d'avis. Et alors, j'ai voulu faire un texte sur le Macumba, parce que vous savez que le Macumba de Bordeaux est le premier Macumba qui a été réalisé. Dans l'histoire des Macumbas en France, il y en a 7 ou 8, pas plus. Hein, voilà. Celui de Bordeaux est le premier, à Mérignac ou à Pessac, je ne sais plus. Et il a été inventé de toutes pièces, réalisé et ensuite exporté dans d'autres villes par Pétiot-Létang, qui est quand même un de nos grands architectes bordelais, hein, voilà, qui va inventer là une véritable machine à danser, hein, entièrement conçue, d'abord construite en très peu de temps. Il invente un design particulier, un logo particulier, et ça va devenir donc une sorte de chaîne, donc. Une chaîne qui va s'exporter jusqu'à l'étranger, parce que je crois qu'il y a un Macumba en Belgique. Voilà. Alors, la question que je me posais, si vous voulez, moi, dans cet article, c'est de savoir si un bâtiment comme ça, si méprisé, un peu à l'écart donc des grandes qualités architecturales que nous partageons tous, hein, dans son caractère unique, dans son caractère de prototype, et dans dans la pensée qui a présidé à sa réalisation, je me posais la question de savoir si on pouvait le considérer comme un élément de patrimoine. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cet article. La question n'est pas résolue. Hein.
Pour l'instant, le Macumba n'est pas encore classé.
Hein, mais il sera certainement jamais classé.
J'ai l'air de plaisanter, mais je comprends parfaitement votre démarche. Hein. Elle est intéressante parce que vous établissez une sorte, c'est presque une type. Il y a une typologie de la boîte de nuit,
oui,
dont il serait, le Macumba serait le modèle, comme il y a une typologie de cathédrale, donc je sais pas, la cathédrale de Chartres ou de Beauvais peuvent être le modèle.
Une typologie de bâtiment et en même temps aussi une audace dans la construction. Comme je vous ai dit, ça a été construit très rapidement à peu de frais, avec l'invention presque d'un matériau particulier que Pétiot-Létang, on peut dire du mal sur cet architecte, certains ne l'aiment pas. C'est un architecte qui a eu des réalisations absolument splendides et des idées aussi géniales à un moment. Hein, je vous signale le passage, tiens, je l'ai vu ce matin, il était, j'en profite pour rendre hommage, parce que j'y étais aussi ce matin, il était aux obsèques de Yves Salier, qui est mort il y a 4 jours, à l'âge de 96 ans, hein, et qui a été enterré ce matin donc à l'église de Bègles, accompagné par des dizaines et des dizaines d'anciens élèves, car Yves Salier a formé une multitude d'architectes à Bordeaux. Hein, voilà. Il était particulier.
Alors, il y a d'ailleurs,
voilà, Yves Salier, c'est intéressant.
Il y a d'ailleurs un article sur la maison d'Yves Salier.
Je montre la maison d'Yves Salier.
Ceux qui ont l'ouvrage, c'est page 72.
C'est-à-dire qu'Yves Salier a réalisé en 1950 sa maison et son atelier lui aussi. Voilà, c'était une image de marque de ce qu'était son architecture. En 50, il était jeune, hein, il avait quasiment pas construit, peut-être deux maisons en Royan, et encore, je sais même pas aussi, je pense, si qu'ils avaient construites, oui. Et il commençait à entreprendre à ce moment-là la construction de la caserne des pompiers avec Ferré, et avec Courtois. Et en plein Bordeaux, dans un quartier où il y a une architecture quand même assez marquée par une monumentalité et une référence à l'histoire et au classicisme, il construit une maison qui est audacieusement moderne, c'est-à-dire il n'y a que du béton et de grandes baies de verre. Voilà, hein. C'était ça Salier, c'est-à-dire c'est la rupture. La rupture affirmée, radicale, revendiquée sans cesse jusqu'à la fin de sa vie, je pense, avec la culture historique. Voilà, on est là, à l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quand je cherche Salier, je ne cherche pas en quoi il y a une référence à l'histoire, mais il y en a une quand même, dans la mesure où la référence à l'histoire est une rupture, hein, véritable. Voilà. Donc, Salier, donc, qui vient de mourir, a une carrière de rupture complète dans laquelle se sont engouffrés des dizaines et des dizaines d'architectes bordelais qui ont fait de très belles choses, mais parfois qui ne sont pas arrivés à la hauteur de ce que faisait Salier. Hein, voilà. Mmh. Et alors, dans ce livre, je prends un autre exemple très intéressant aussi, qui est aussi une œuvre de Salier. Salier, dans la rue Fondaudège, a réalisé un bâtiment très audacieux aussi pour l'époque. Nous sommes toujours dans les années 55. Il a refait la façade des entrepôts ou des bureaux de Marie Brizard.
Alors ça, c'est page 76, c'est 77.
Voilà. Et cette façade, c'est une façade de verre. Elle est rectangulaire et c'est sur 4-5 niveaux. C'est un immense mur de verre, ce qu'on appelle en architecture un mur rideau, hein, mur rideau de verre et d'aluminium. D'autant plus intéressant que ce mur rideau de verre et d'aluminium est un des tout premiers en France. Donc là aussi se pose la question de sa conservation et de sa patrimonialisation, parce qu'il est menacé à l'heure actuelle, je le redis. Or, ce qui est d'autant plus intéressant, quand je suis allé le voir pour essayer d'en parler, d'écrire quelque chose, de faire un article, je ne savais pas trop quoi faire, mais je voulais le regarder de près. Ce qui est fantastique dans ce mur rideau de verre, qui s'est imposé dans cette rue au mépris volontaire de l'histoire, du contexte. C'est un choix, ça, de ces modernes. Hein, ce qui est fantastique, c'est que sur ce mur rideau de verre se reflète, mais comme si c'était un écran de cinéma, une maison qui est en face et qui est une maison, mais alors on ne peut plus éclectique et référencée à l'histoire. C'est-à-dire que sur ce mur, vous avez reproduit toute cette histoire que se refuse d'accepter Salier et qui, dans ce reflet, finalement, se présente comme une revanche. C'est ça qui m'intéressait. Voilà, si vous voulez, le mur de Salier était beau, le verre était beau, mais le reflet de l'histoire dans ce mur d'un bâtiment complètement éclectique avec des colonnes partout, des pinacles, etc., est encore plus beau et encore plus intéressant. Voilà.
Hein. En somme, on n'échappe pas à la mémoire.
Et non.
Et c'est ce que vous essayez de montrer dans chacun de ces petits, ou dans la plupart de ces petits textes. Je dis petits, n'est-ce pas, parce qu'ils sont courts. Enfin, voilà.
On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'on est totalement pris. Oui.
Par exemple, un immeuble qui n'a pas certainement beaucoup de, qui ne doit pas être très apprécié, qui se trouve au cours Georges Clémenceau. Vous voyez en bas du cours Georges Clémenceau, près de la place Tourny. Il y a cet immeuble bizarre, à travers, il y a toute cette continuité de belles maisons au XVIIIe siècle, ou néo-XVIIIe, bien pas beaucoup. Et puis tout d'un coup, on arrive devant une maison bizarre, avec des colonnes rustiques, couvertes de pampres sculptées, peintes rouge sang, des espèces d'architraves en bois. Enfin, c'est quelque chose, c'est page 58. Hein, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est là, on est à Knossos, on est au Pays Basque, on est complètement perdu. Et voilà effectivement des sortes de souvenirs de culturels qui apparaissent, mais qui veulent rien dire. Et vous
oui,
trouvez leur signification.
Que là aussi, c'est grâce aux archives, quand même, on peut pas s'en passer. Hein. Je le redis et je remercie... Les quelques personnes qui m'ont aidé à découvrir. C'est vrai que grâce aux archives, j'ai trouvé que ce bâtiment était en fait un bâtiment réalisé par un grand architecte du pays basque qui s'appelle Godbarge et qui est l'invention du style néo-basque. Et ce bâtiment était un magasin qui vendait des produits basques. Donc il essayait d'en faire une façade qui vantait à la fois les produits du Pays basque et d'adapter un peu son style néo-basque à cette façade-là. On parlait de Knossos tout à l'heure, c'est vrai. La référence n'est pas à Knossos, la référence est véritablement l'architecture vernaculaire du Pays basque. Mais en même temps, c'est une architecture qui revendique qu'elle n'est pas totalement isolée dans l'histoire de l'architecture et que pour la saisir et en même temps aussi pour la valoriser, il faut la replacer dans une histoire, c'est-à-dire finalement cette architecture néo-basque ici dans ce cours Georges Clemenceau se présente comme héritière de la grande histoire de l'architecture. Voilà.
Oui, avec en supplément le fait qu'il y avait, je crois, à ce moment-là, des Basques nationalistes qui revendiquaient un lien direct avec l'Antiquité crétoise. Et ce que fait Godbarge dans son basque vernaculaire qui ressemble à du Knossos, eh bien les potiers de Cibourg font la même chose.
Oui, alors ça,
ils font des vases modernes, enfin modernes, c'est des gargoulettes, je ne sais pas si on s'en sert beaucoup, mais ça peut être des cendriers aussi ou des assiettes, et les décors sont des figures noires, hein, silhouettées, qui représentent des pelotaries. Comme on peut voir sur des guerriers, sur les... Il y avait cette...
Mais vous me l'avez dit après, ça, je, c'est dommage, quand j'avais écrit mon article, je ne savais pas, mais ça conforte totalement...
Ça enrichit encore le sens. Oui,
mon interprétation, oui, c'est vrai. Hein, oui. Alors donc voilà, si vous voulez, c'est à peu près comme ça que je travaille, parce que je m'amuse en fait, je me régale à faire ça, c'est un plaisir de pouvoir repérer, de pouvoir écrire par la suite. Je comprends, si vous voulez, ce livre, c'est le contraire d'un livre d'universitaire, hein. Ce n'est pas de l'érudition. Il y a deux livres qui sortent en même temps à l'heure actuelle à Bordeaux, l'un sur les frères Laclotte, fin 18e.
Admirable ouvrage que
voilà,
je vous recommande.
Fin 18e,
également.
Début 19e, des grands architectes bordelais qui ont travaillé à la grande époque du Bordeaux 18e, et qui est un ouvrage d'érudition magnifique et sérieux. Puis il y a le mien qui semble, par rapport à ce monument-là, est un peu la dérision du monument. Je suis désolé pour l'ouvrage j'ai un peu l'ouvrage de Philippe Maffre dont on parle. C'est vrai que je considère avec plaisir, et je le revendique, que c'est un peu une dérision du monumental, ce que je fais là, hein, et du monde, et en même temps de la dérision un petit peu du monumental universitaire, c'est-à-dire que y en a marre des thèses, quoi. Hein, on en a tous fait une, on ne peut plus continuer à faire ça, quoi. Hein,
oui, voilà. Mais...
Cherchant du plaisir aussi ailleurs.
Bon. Oui, mais en même temps, je ne dis pas que vous vous estimez en faisant ces remarques. Vous vous situez volontairement en marge de démarches éprouvées et reconnues. Pour autant, il y a... je dis du militantisme, le mot n'est pas convenable, mais pour l'instant, j'en trouve pas d'autres. Mais il y a dans votre démarche, malgré tout, la volonté d'ouvrir les yeux sur des patrimoines soit oubliés, soit méconnus, soit méprisés, et de plaider leur cause.
Oui.
Je pense, par exemple, globalement, à tout ce que vous écrivez sur le quartier Mériadec, qui est vraiment, effectivement, le type de ces choses, ou bien que l'on ne voit pas, ou bien que l'on n'aime pas, et qu'on est en train de... Les démolisseurs commencent déjà à grignoter les marges. Voilà. Ce quartier... Il vous intéresse et au-delà de, ou à travers vos analyses, je pense qu'il y a eu une plaidoirie pour la défense de Mériadec.
Oui, oui, tout à fait, c'est vrai.
Mine de rien, il y a des enjeux sérieux derrière.
Oui, mais des enjeux sérieux qui sont déjà la ville elle-même, c'est-à-dire que, pour laisser Mériadec de côté, mais je peux en parler quand même, ce que je montre, mais je le dis pas comme ça, si vous voulez, c'est en parlant ici devant vous que je l'exprime. C'est que ce qui est en jeu, si vous voulez, dans la recherche de ces détails, de ces choses non vues, non connues, non étudiées, c'est la ville. C'est la ville avec son authenticité, sa diversité, sa complexité. Hein, c'est la ville avec ce qu'elle a de strates sociaux ou bien culturels, de parcours non balisés, de vie, quoi, finalement. Hein. C'est-à-dire que j'en viens d'une certaine manière à mettre en scène et à valoriser des choses qui ne le valent peut-être pas, hein, mais qui sont tellement quand même liées à ce qu'est la vérité de la ville. Hein, la ville n'est pas que la façade des quais, c'est évident. Hein. La ville, c'est aussi d'autres rues, c'est aussi la suburbia, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la ville et qui fonctionne d'une manière différente parce que on n'est pas dans des secteurs protégés. Et donc, dans ces secteurs qui ne sont pas protégés, la liberté d'expression est peut-être plus grande, la liberté de création est peut-être plus intéressante. Voilà. Bon. Donc, je pense que ça va jusque-là, cette réflexion un petit peu fragmentaire et peut-être un peu aussi de dilettante. Hein. Je considère quand même qu'il faut voir la ville autrement. Voilà. Il faut voir la ville autrement et il faut voir la ville dans sa complexité, sa diversité. Bon, dans ce travail, alors revenons sur Mériadec, je ne fais pas l'éloge total de Mériadec. Mériadec a été créé par d'abord du vandalisme, effectivement. La destruction du quartier Mériadec est un acte de vandalisme, il faut le reconnaître. Hein. C'était un quartier qui n'était peut-être à l'époque pas du tout du goût des édiles. Comment regarderions-nous l'ancien quartier Mériadec maintenant, hein ? Il pourrait très bien devenir, dans ces restaurations, un quartier bobo. Pourquoi pas, finalement, de petites maisons organisées autour d'une place.
Il serait inclus dans la ville de Pierre, inscrite au patrimoine de l'UNESCO.
Certainement. Donc, le Mériadec contemporain, moderne, que vous connaissez tous, vient de la destruction complète d'un quartier énorme. Hein ? Voilà. Sa reconstruction a été très longue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et c'est ça qui m'a intéressé, de voir un petit peu sur quoi s'est reposé les principes de sa reconstruction. Et ces principes sont des principes totalement utopiques. Donc ce qui m'a intéressé dans Mériadec, c'est plutôt de faire de remettre en avant l'utopie d'un architecte et d'un urbaniste, hein, et en même temps d'un maire peut-être, hein, de voir en quoi cette utopie avait était à son époque, était inscrite, je dirais presque, dans des courants de pensée qui étaient ceux des années 70.
Hein. C'était voilà. La dalle à Paris
de la Défense. C'est surtout Lyon-Lapardieu.
Voilà. Même à Toulouse aussi.
Toulouse est un peu plus récent par rapport à Mériadec. Hein. Voilà. Donc, ce que nous avons de Mériadec, nous avons une sorte de quartier, comme ça, surélevé sur une dalle, isolé de la ville, qui a rompu toutes les communications avec la ville. Il n'y a plus d'organismes qui relient. C'est terminé. Mériadec est un endroit où on monte pour découvrir autre chose, pour découvrir une autre ville, pour découvrir un autre espace, pour découvrir un autre lieu qui a ses qualités, son intérêt, etc. Et alors, justement, le problème qui se pose pour Mériadec, qui maintenant est plus ou moins protégé, puisqu'il est inscrit dans le secteur sauvegardé UNESCO.
Hein, oui.
Donc, dès qu'on fait quelque chose à Mériadec, on est obligé de passer par le comité auquel nous appartenons, d'ailleurs, Robert et moi, qu'on appelle le CLUB, le comité local UNESCO Bordeaux, et qui permet d'évaluer en quoi... parfois, d'ailleurs, on nous impose des projets sans pouvoir les discuter, malheureusement. Bon, enfin, ce qui m'intéressait, moi, à Mériadec, c'est de savoir comment on pouvait continuer à faire vivre ce quartier, qui ne vit pas bien, effectivement, hein, tout en conservant ses caractéristiques de quartier utopique, c'est-à-dire de quartier isolé, de quartier qui tient sa qualité dans son isolement, dans sa conception du monde... là aussi, opposé à l'histoire. Hein. Mériadec s'est constitué comme ça. C'est un peu comme ça lié. Voilà. On est dans un monde qui doit signifier l'avenir. Et j'ai fait un petit article sur où je compare Mériadec et Ginko. C'est pareil. Hein. À mon avis, ce sont les mêmes choses. Avec Ginko, on développe une autre utopie complète. Hein. J'ai trouvé deux prospectus de promoteurs. Hein. Sur Mériadec, l'autre sur Ginko. Alors, les discours sont tout à fait différents, mais finalement, la réalité est quasiment la même. Mériadec, le slogan, prenez Mériadec. Voilà, prenez Mériadec. Voilà, partez à la conquête de Mériadec. Quand ce prospectus a été délivré... en 1975, il s'agissait effectivement du moment où on s'apercevait que ce quartier était en train de ne pas marcher du tout. Voilà. Et alors, le promoteur ou les promoteurs, très habilement, ont montré en quoi, finalement, c'était un acte de courage, un acte de...
Pionnier.
Non, pionnier, bon. C'est Ginko, c'est différent.
Ah,
il fallait partir à la conquête de Mériadec, c'est-à-dire finalement voilà, ne pas avoir peur, quoi, en quelque sorte. Se battre pour s'y installer. Hein, mm-hmm. Voilà. Et alors, au contraire, le discours publicitaire par rapport à Ginko, c'est totalement différent. Les habitants de Ginko sont présentés comme des pionniers, c'est-à-dire ils vont tranquillement... défricher la nature, s'installer dans la nature, conquérir, mais avec douceur, le territoire, et s'installer là, installer une culture douce dans un territoire sauvage. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, voilà. Et ils sont présentés comme ça. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Hein, on a tout construit pour eux, on n'aura jamais demandé leur avis. Hein, ils s'installent dans une architecture clé en main, où on valorise quelque chose de très curieux qui est la mixité à tous les niveaux et sociale en même temps, alors que ce n'est pas un choix. Et ils sont dans une sorte de domaine isolé. C'est absolument étonnant. On rentre dans des immeubles à Ginko, vous avez de grandes maximes de Saint-Exupéry.
Ah oui.
J'en ai photographié deux ou trois, mais on se croirait dans une dissertation de troisième, vous savez, sur laquelle on planchait. C'est-à-dire que les gens rentrent chez eux et ils ont devant les yeux cette phrase, être homme, c'est être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on touche que j'arrive plus à me lire parce que c'est brisé. Voilà, enfin, si vous voulez, c'est des slogans. Ils sont inscrits sur les immeubles, dans les immeubles. C'est étonnant. Voilà. Donc on est devant, devant une autre utopie, à mon avis. Hein. C'est-à-dire que...
Dans tous les cas, l'architecture sert à manipuler, non ? Un peu l'usager.
De toute façon, l'architecture, ça manipule toujours l'usager.
Oui, oui.
Hein, jamais... si, on peut faire construire sa maison, mais on n'est pas en ville à ce moment-là.
Oui,
l'architecture, c'est effectivement un art de manipulation, c'est certain. Salier, tiens, Salier, pour revenir à lui, parce qu'on ne peut pas... pas penser à lui aujourd'hui. Il a construit, toujours vers 1956, pas loin de l'hôpital Pellegrin, une sorte de petite copie, modèle réduit de la Villa Savoie. Hein, la Villa Savoie, ceux qui la connaissent peut-être, j'ai décrit en deux mots pour ceux qui ne la connaissent pas, et rapidement, c'est une sorte de boîte à chaussures, hein, par l'épipède, portée au-dessus du sol par des pilotis. Voilà. C'est ça. Alors, grosso modo, c'est ça. Hein. Et que fait Salier ? Donc, il a construit ça pour une dame âgée. Dans ses interviews, il dit que c'est une vieille. Elle avait 60 ans. Hein. voilà. J'ai construit ça pour elle. J'ai pris la vieille et je l'ai mis là-dedans. Alors, elle a fait une maladie, effectivement. C'est ça. Alors là, on est vraiment dans la grande manipulation.
Oui, hein.
De toute façon, Salier, c'était ça. Il manipulait complètement son client.
Pour parler encore, Corbusier, en somme.
On peut parler encore de lui.
Terroriste. Hein.
Voilà. Si on n'acceptait pas ce qu'il proposait, on n'avait plus qu'à aller voir ailleurs. Hein. Et comme finalement, tout le monde, enfin, dans un certain milieu... surtout des professions libérales, voulaient des maisons de Salier, les gens étaient à genoux pour se faire construire une maison par Salier. Hein, et ils faisaient payer très très cher. Hein, voilà.
Bon, ben, écoutez, on est passé un petit peu du particulier au général. On finit sur des considérations que vous trouverez là, soit clairement exprimées, soit... entre les lignes.
Je voulais dire un tout petit mot quand même sur le titre. Hein.
Bon, voilà, et on terminera par le titre.
J'ai pas eu le temps d'en parler. Donc, j'appelais ça l'architecture et son double. Vous comprenez bien que c'est une référence à Artaud, c'est évident. Je ne l'ai pas assez développé peut-être dans l'introduction. En tout cas, au moins, je n'ai pas parlé d'Artaud. Le titre du livre d'Artaud m'a tout de suite évoqué ce titre-là, même si ce n'est pas la même chose. Bon, voilà. Je voulais dire par là, dans l'architecture en double, que je considérais effectivement le double avec plusieurs sens. Hein. D'abord, c'est le même, c'est-à-dire la reproduction, l'identique. Ça existe à Bordeaux. Hein. Et j'en parle dans le précédent livre. Par exemple, le pavillon central de la place de la Bourse, qui date de 1700, le pavillon central de 1750 à peu près, voilà, a été reproduit à l'identique en 1930 pour faire le pavillon de la Bourse du Commerce devant l'actuel entrepôt Lédé. C'est une copie conforme.
Autre copie, pour dire, il y en a plusieurs. L'hôtel dit de l'île ferme, qui est le muséum du jardin public, est recopié de l'autre côté dans l'hôtel des sociétés savantes et de l'académie.
Voilà.
Et on pourrait s'amuser. Alors je vous donne cette piste pour vos promenades.
Voilà une piste. Et je veux dire que le double est déjà intéressant par cette espèce de crispation qu'il y a par rapport à un modèle. Hein. La crispation est révélatrice de beaucoup de choses sociales, culturelles, enfin bon, on peut beaucoup en parler. Le double aussi, c'est aussi la reproduction avec la différence. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de voir en quoi on peut reprendre, mais on peut aussi, en reprenant, subvertir complètement le modèle. hein, le pervertir, le renier par le traitement particulier d'un détail. D'un, voilà. Bon, là aussi, j'ai deux ou trois références dans le bouquin qui m'échappent maintenant au moment où je vous en parle, mais enfin, c'est là-dedans. C'est aussi ça, si vous voulez. C'est le double volontairement raté ou volontairement perturbateur. Voilà.
On le renie, en somme, soit par contresens, soit par lapsus.
C'est ça, c'est-à-dire que le double, c'est aussi la référence et ça peut être aussi la différence. Je crois que c'est un peu ça, si vous voulez, qui m'intéresse. Et pour en revenir, si vous voulez, encore à ce bouquin, bon, je crois que je ne perds jamais de vue, et c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que nous fonctionnons, nous, historiens de l'art anciens peut-être, Philippe Araguas est comme nous, c'est un proche ancien, on ne peut pas s'empêcher de fonctionner avec nos références et nos références à l'histoire de l'architecture. C'est pas possible. C'est avec ça qu'on mesure les différences. Hein, c'est avec ça, il faut sans cesse comparer, c'est ça qui fait ressortir l'originalité. Hein, si on n'a pas cette comparaison possible, peut-être qu'on n'arrive pas à jauger la qualité d'un bâtiment ou
sa singularité.
Il faut ça et il faut aussi les mots. Et là, je reviens à Montaigne, hein, voilà. pour boucler tout ça. Et si on n'a pas les mots précis, c'est en ça que Montaigne se plante, à mon avis, oui. Complètement. Si on n'a pas les mots précis pour décrire l'architecture, hein, on ne saura jamais de quoi on parle. Hein. Et ces mots sont des mots, c'est un code, c'est un langage. Et ce langage a d'autant plus d'intérêt, hein, et je vais en revenir là-dessus, que ce sont ces distorsions qui sont intéressantes. Partout où ça manque, partout où il y a le défaut dans ce langage, dans tous ces endroits-là, il y a l'intérêt. Hein, c'est là que ça s'engouffre. Voilà. Voilà. Moi, il me semble que si je dois continuer à travailler sur l'architecture, je travaillerai essentiellement là-dessus. C'est à partir d'une syntaxe, qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a fait qui ont permis, et je l'ai dit au début, de montrer à la fois la souplesse et la qualité de cette syntaxe, mais aussi ses limites. Hein, voilà, c'est, à mon avis, c'est ce qui est intéressant.
Alors nous attendons, il faut que ce soit une trilogie, volumes sans sortie.
J'ai envie de lire.
Xavier Rozan est là. Nous attendons maintenant.
J'ai envie de lire avant de laisser la parole à ceux qui veulent parler. les 10 dernières lignes du bouquin où je parle d'une discothèque sans intérêt, une ruine qui n'existe plus parce que je l'ai vue en ruine à Bacalan et j'ai vite fait la photo. D'abord, c'est un mur mauve. Il y a marqué dessus discothèque, écrit T-E-K à la fin. Vous voyez ? C'est tout. Deux colonnes blanches et un fronton qui a été arraché. Il n'y a plus rien, donc il y a discothèque. Voilà. Et alors, donc, effectivement, on peut gloser sur la référence à la Rome antique avec les deux colonnes et le fronton, tout ce qu'on veut, etc. C'est vrai que c'est mauvais, que c'est pas une grande œuvre, que c'est même rien, quoi. Voilà ce que j'ai.
D'où l'intérêt.
voilà ce que je termine après l'avoir décrite et avoir fait des comparaisons qui s'imposent. Hein. Bon, discothèque, écrit discothèque, je dis comme un simple magasin, une boulangerie par exemple. Le nom du lieu est donné par sa fonction et cette économie de signes renvoie à la pauvreté de ceux qui composent le décor d'entrée. La simplification du mot à sa transcription phonétique participe de cette économie et à la dissolution de l'orthographe répond à la dissolution du vocabulaire architectural antique réduit à son minimum identifiable. À l'inverse du « less is more », la grande maxime de Mies van der Rohe, qui, dans la sophistication extrême du dépouillement, rejoint la richesse de l'architecture antique, le « less is more » de la discothèque de Bacalan n'est que l'habillage de pauvreté d'une pauvreté qui certainement l'habita. Et pourtant, ces restes ont malgré tout quelque chose de sympathique, et même de rassurant. Dans cet ancien quartier d'usine, maintenant livré à la culture officielle de la réhabilitation durable et éco-citoyenne des friches industrielles, l'improbable portique antique au fronton jaune sale, sorti d'on ne sait quelle intention commerciale, par son caractère superficiel, artificiel et son statut de réalisation éphémère, arraché brutalement de la nuit où brillaient peut-être ses colonnes pour étaler sa ruine de plâtre en plein jour, affirmait, dans ce décalage, au-delà du beau et du laid, une autre réalité, une autre forme de vie, celle du politiquement incorrect, et montrer que, dans ce monde où bibliothèque, TEK à la fin, était impossible, discothèque, TEK, l'était encore. Voilà.
Bon, bah, c'est le mot de la fin.